Jardin d'Isis, vous le savez, habitué de FM+, c'est l'émission de Marie-Agnès Salé-Zada. Mais aujourd'hui, c'est Marie-Agnès qui est l'invitée de son émission en tant qu'auteur, en tant que poète. Car Marie-Agnès vient de publier La mémoire du pré, ses poèmes, aux éditions L'écharpe d'Iris. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Guylaine. Je te remercie de m'interviewer.
Il va falloir vous prêter au jeu de l'interview, pas évident hein, pour une personne qui a l'habitude d'interviewer.
Mais je suis très contente de pouvoir répondre à quelques questions. Et...
Très bien. Alors, La mémoire du pré, Marie-Agnès, ce n'est pas votre premier recueil. Hein. Le premier s'intitule « Sur la solitude de la lagune », des poèmes écrits entre 2006 et 2013. C'est bien cela ?
Oui. Il y a eu un premier recueil, par contre, qui a été assez peu diffusé, qui s'appelle « Caresse du temps sur les jours perdus », qui est paru en 2007. Ça a été le premier recueil avec les éditions Tourisme Éragué, une maison d'édition située à Éragué, dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite, il y a eu Sur la solitude de la lagune, donc aux mêmes éditions, l'écharpe d'Iris édition. Puis Le coquelicot et la tourbe.
Ah, Le coquelicot et la tourbe, d'accord, je n'avais pas connaissance.
Donc La mémoire du pré, le quatrième recueil.
Quatrième, ah, voilà, il y a déjà de l'actif sous votre nom. Alors, est-ce que ceux de La mémoire du pré ont été écrits depuis... est-ce que c'est chronologique, vos parutions de recueil ?
Oui, en général, bon, ce qui regrouper les poèmes de 2007 sont des poèmes écrits en 2005, 2006, 2007. Après, sur la solitude de la lagune, c'était des poèmes écrits entre peut-être 2007 et 2013. Le coquelicot et la tourbe reprenaient des poèmes anciens qui n'avaient jamais été publiés, écrits autour de 2005. Et également un chapitre de poèmes très récents jusqu'en 2013. Et La mémoire du pré, donc...
Voilà. Couvre de 2013 à maintenant.
Voilà, de 2013 à 2016, à peu près 3 années d'écriture, avec un retour sur un poème plus ancien.
Le feu follet ?
Voilà,
Feu Follet. En effet, Feu Follet, alors vous nous le dites, hein, c'est celui que vous proposez en ouverture du livre, c'est le premier lu en public. Et ce n'est pas rien de livrer oralement un texte que l'on a écrit.
Eh bien, ce texte est important pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été publié malgré l'importance qu'il représente dans ma démarche poétique. C'est la première fois où j'ai lu devant un public. Et ça a été une ouverture totale vers tout ce qui a suivi après. C'est ce texte qui m'a amené vers l'émission
Jardin d'Isis,
vers la publication de recueils, vers la parution dans des revues, à l'adhésion diverses associations de poésie, à connaître des auteurs en poésie. Donc c'est vrai, ça a été une ouverture complète.
Ouais. Et date de quand alors ce poème Feu Follet ?
Alors Feu Follet, c'est 2005, de novembre 2005, au moment du vin nouveau.
C'est cela. Alors ensuite viennent des poèmes qu'il me semble dans la parution de ce recueil où il n'y a pas d'ordre formel d'apparition. Hein. Le sommaire, en effet, présente une liste en 8 petits paquets, en 8 ensembles, que nous allons peut-être toutes les deux un peu disséquer. Et on s'aperçoit que le poème éponyme du recueil, La mémoire du pré, est pile à la fin de ce que moi j'ai appelé le premier tiers du livre. Il clôt ce premier tiers. Et cette mémoire du pré, pour moi, je l'ai lu comme ça, est un hymne à un paysage qui ne semble pas être un paysage de l'Hérault. Vous évoquez les failles ravinées du Morvan. Alors, pourquoi avoir choisi ce poème comme titre du recueil ?
Je parle beaucoup du pré dans ce recueil. Je parle beaucoup. Alors, de temps en temps, on trouve la mémoire du pré, l'innocence du pré, la pudeur du pré. Donc, il y avait quelque chose. Et Et il faut aussi dire que mon recueil regroupe des poèmes qui ont été écrits lors de voyages, lors de déplacements. Mmh. Lors de ces déplacements, je traverse des paysages. Alors, lorsque je vais dans les Hautes-Alpes depuis 12 années ou 13 ans, même peut-être presque tous les mois, je traverse le même paysage sur une petite route de la Drôme et je vois le paysage évoluer. Et forcément, sur une petite route, on roule assez lentement, donc j'ai le temps d'être imprégnée par les images et inspirée par les images. Mmh. Il y a aussi des poèmes qui sont écrits dans le train, alors que je me rends à Paris, dans un espace de solitude lors du voyage, et en admirant ces paysages traversés quand même.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la mémoire du pré, finalement, résumerait, synthétiserait, rassemblerait les thématiques des autres poèmes.
Voilà, c'est une thématique descriptive autour du paysage, et d'ailleurs, c'est important de le dire, j'en profite maintenant pour le dire, mes autres recueils partaient de l'émotion, avaient un point de départ émotionnel, pour l'écriture, que là j'ai eu une démarche tout à fait différente. Je suis partie de l'observation du paysage, cette envie de décrire la beauté du paysage, et à partir de ce que je recevais comme émotion de cette beauté, je pénétrais dans des paysages intérieurs qui me permettaient de descendre dans une intériorité, une réflexion.
Alors pour rester sur ce poème, La mémoire du pré, j'ai constaté que vous avez organisé ce poème avec des strophes de 3 vers, parfois de 4, parfois de 2, parfois une ligne. Alors qu'est-ce qui va chez vous déterminer cette organisation? Est-ce qu'elle est préconçue ou est-ce que c'est voilà au fil de l'écriture? Comment est-ce que vous organisez ce poème-là? Qu'est-ce qui va déterminer que vous arrêtez au bout de 4 vers pour laisser un espace, et puis un autre, et ensuite 2?
Je pense déjà que l'écriture doit être assez aérée, de livrer une longue litanie de vers sans faire de petites coupures, ça serait quand même déjà inconfortable à la lecture.
Déjà une coupure visuelle, donc.
Voilà, une coupure visuelle. Après, j'isole aussi un paysage par rapport à un autre. Si la description est un peu longue, je vais quand même faire une petite coupure malgré tout. Parfois je mets un seul vers parce que je veux accentuer la portée du vers et puis ouvrir sur autre chose.
Alors dans ce poème, moi, il y a justement un ensemble de 2 vers qui me plaisent beaucoup, qui m'ont particulièrement touchée, comme si ce que vous aviez, ce que je comprends, vu, avait évoqué quelque chose qui pour moi aussi résonnait. Et ce vers, c'est celui-là. Souffle du logis, repli du hameau, abandon du cimetière. C'est comme si votre intimité là rejoignait la mienne, juste dans ces 2 vers. C'est formidable finalement, cette universalité de ce paysage que je ne connais peu, le Morvan, qui va rejoindre d'autres paysages qui sont les miens dans d'autres régions de France.
Alors, je pense que cela nous parle parce qu'on a quand même, enfin, personnellement, cette mémoire du pré aussi, j'ai des racines ancrées dans la ruralité. Je pense que ça rejoint beaucoup de personnes. Donc, ces paysages, ces descriptions un petit peu pastorales, d'univers un peu pastoral, peuvent parler à d'autres personnes. Et là, je...
Vous voyez comment vous avez construit ça? Moi, ça m'a ébranlé, ça m'a touché. Souffle du logis. Souffle du logis, c'est inattendu comme association. Repli du hameau. Voilà, tout ça, on imagine bien. Et abandon du cimetière.
Oui.
Cette association de ces 3 vers avec ces mots que vous avez, évidemment c'est l'art du poète, hein,
oui,
que vous avez assemblé, ça donne d'autres images finalement.
Le souffle du logis, oui, le logis est habité par un souffle, par une vie qui le... qui l'anime, le repli du hameau, oui, c'est cette vie assez solitaire, et l'abandon du cimetière, c'est ces campagnes qui ne sont plus habitées, qui sont quand même désertées, qui ont été désertées.
Vous avez apporté un morceau musical qui va égrener notre émission. Vous pouvez nous rappeler ce que vous avez choisi.
Elisa Velia, La femme qui marche, et c'est une poète grecque qui est responsable, qui a créé un groupe où elle joue de la harpe. C'est très beau, et en même temps La femme qui marche, c'est la démarche un peu de l'écrivain aussi, de c'est une démarche, et j'aime bien être accompagnée par cette chanteuse. En plus, elle a une voix, vous allez voir, extraordinaire.
On écoute.
Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στη τριάντα φιλιά. Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στη τριάντα φιλιά, χτίζει υπέρβικα φωλιά. Χτίζει υπέμαυρα μου μάτια, χτίζει υπέρβικα φωλιά, σημαίνω βγαίνουν τα πουλιά. Σημαίνω μαύρα μου μάτια, σημαίνω βγαίνουν τα πουλιά και σχέται η τριάντα φιλιά. Και σχέται η μαύρα μου μάτια, και σχέται η τριάντα φιλιά, και πέφτουν τα τριάντα φιλιά.
Sur FM+, c'est Marie-Agnès Salezada, habituellement animatrice, qui est aujourd'hui l'invitée. Eh bien oui, l'invitée de sa propre émission, car elle écrit La mémoire du pré, dont nous venons d'ailleurs d'évoquer principalement dans cette première partie le poème éponyme de ce recueil. Alors, on a dit, vous avez dit, Marie-Agnès, que le pré, les paysages étaient la source de ce recueil, mais quand même, il y a une diversité qu'on n'a pas relevée encore et que j'ai envie de relever maintenant, car nous avons quand même une fable à la mode de La Fontaine, avec une lionne, des hymnes à la nature, avec la ronde des saisons, la balade ornithologique ou encore Douce colombe, Le sourire de paix, un poème aussi en hommage aux victimes de l'attentat de 2015 sur Charlie Hebdo, et puis un regard sur l'homme qui vit dans la rue, je voudrais juste qu'on me tende la main, avec un autre style là. Alors, donc voilà, vous captez comme ça des événements, des visions, des rencontres. Qu'est-ce qui va faire que vous allez les apporter dans ce recueil et en faire une cohérence d'écriture ?
Pour moi, le poète est témoin de son époque, donc il se doit d'apporter témoignage. C'est un peu l'engagement du poète. Il va Donc après, il va témoigner, je témoigne beaucoup, même si je pars de cette observation de la nature, je témoigne aussi autour de la destruction de la nature, de la destruction par l'homme de son environnement. Je parle aussi de préservation, mais enfin, par contraste, si je parle de préservation, c'est que je sais qu'il y a destruction. Et je suis témoin des drames de notre époque. Ceci, je pense que ce sont des images qui surgissent, qui sont comme des flashs qui envahissent complètement ma psyché. Ce n'est pas du tout une écriture opportuniste. J'écris par rapport à une douleur qui survient et que je suis obligée de dire. Après, c'est un impératif, je le dis, le dis.
Voilà, une écriture... Voilà, impératif, comme vous le dites, nécessaire.
Oui, c'est quelque chose, c'est un peu une urgence de le dire à mon niveau, quelque chose de ressenti. Et à force de descendre, comme je disais, dans cette intériorité, on est les images qui viennent ne peuvent pas être que bucoliques, agréables et admiratifs par rapport au paysage. On ressent aussi tout le reste, toute la violence, tout ce qu'il peut se passer à côté. Et personnellement, mes poèmes sont souvent des parallèles entre les deux, entre cette beauté de la nature, cette admiration pour ce qui nous est donné et ce qu'on en a fait, malheureusement. Et je l'écris, puisque je le ressens. Donc, ce qui donne des poèmes un peu accidentés, parfois, avec...
Alors, dans ma lecture de ce recueil, dans mon organisation de ce recueil, pour moi, le deuxième tiers du recueil commence avec un poème en hommage au poète Jean Joubert, Dans la nuit du silence. Et je sais que vous êtes aujourd'hui très engagé dans la vie de la Maison de la Poésie de Montpellier, vous en parlerez si vous le souhaitez, mais je voudrais rester quand même sur le plan de l'écriture, et notamment, pour moi, dire que dans ce poème, il y a un vers qui surgit, pour moi, qui éclaire le reste et qui a une densité qui pour moi représente ce poème. Et ce vers-là, c'est celui-là. Comment tracer le signe dans la palpitation de l'algue ? Vous avez mis du temps à trouver cette organisation phrasée, Marie-Agnès Salezada. Je le trouve d'une... Comment tracer le signe dans la palpitation de l'algue ?
Oui, le signe, c'est l'écriture, c'est ce qu'il reste, la palpitation de l'algue, il n'y a pas plus éphémère. Donc, comment arriver à fixer l'instant, fixer la pensée. Pour écrire ce poème, je dois dire que j'avais lu Jean Joubert et... J'étais plongée dans son écriture, en étant immergée complètement dans sa façon, dans cette écriture, dans sa façon de dire, de questionner les choses. J'ai écrit un poème inspiré par lui et
par
son écriture
et par l'homme aussi,
L'homme. Également par son écriture, peut-être par des paysages qu'il aurait pu décrire par des façons...
Absolument. Alors, on va continuer ensuite, on se donnera peut-être la liberté de lire quelques poèmes, peut-être que vous aurez vous-même choisi, que vous aurez extrait de ce recueil. On a parlé de la nature, on a aussi parlé de l'engagement de l'écriture dans votre poésie. Et puis pour moi, il y a des poèmes que j'ai intitulés, et ça m'a amusé quand vous avez utilisé le mot accidenté, car je les ai appelés des poèmes qui sont comme des sorties de route. Alors les poèmes dans lesquels je mettrais dans cette catégorie, ce serait par exemple Le cri de la plume. Ce serait encore Tristesse de l'étoile, qui commence ainsi. On a beau tenter de conserver ses rêves, on est rattrapé par les tentacules de la réalité. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas expérimenté cela ? Et en même temps, vous dites cela avec beaucoup d'humour. Alors, les sorties de route, c'est encore pour moi Invisible ou encore Enfant de lune. Alors, est-ce que vous partagez cela avec moi, des poèmes un petit peu, pour moi, voilà, pas anecdotiques, mais voilà, à côté, le petit pas de côté qui fait votre écriture caractéristique?
J'essaye de ne pas avoir une écriture trop redondante, de ne pas tourner toujours autour des mêmes sujets, de me renouveler, mes sources d'inspiration. Et il y a aussi certains textes qui ont été écrits, invisibles, autour de thèmes d'écriture qui avaient été donnés. Donc c'est... Ce poème retraduit réellement ma façon de voir les choses. Mmh. Il y a des poèmes qui ont été écrits pour les enfants. Pour les enfants,
par exemple,
de temps en temps, mes 12 enfants. Donc, il y a comment maintenir l'idéal sous les ergots du présent pour l'enfant. Protégeons l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, tous ses rêves en corolle. Donc, il y a quand même quelques poèmes qui sont destinés aux enfants qui sont l'espoir de demain pour tout le monde de toute façon. Hein, nous, j'essaie d'en trouver d'autres, mais il y en a d'autres.
On va se donner un moment musical.
Voilà,
tant que
le cri de la plume à la tendresse de l'enfant, cri de la plume sur la feuille. Bon, là, c'est ce pauvre enfant qui est issu de l'immigration, voilà, qui a beaucoup frappé les esprits. Et je demande qu'on préserve l'enfant, puisque je confie l'avenir de notre planète à l'enfant en lui demandant d'en faire plus que nous n'en avons fait.
C'est
d'essayer
ça.
de la préserver plus que nous n'y sommes arrivés. Voilà l'espoir et je parle aussi d'espoir dans le sourire de l'enfant, espoir.
Donc voilà, il y a aussi cette tendresse vers les plus fragiles finalement.
Oui, les plus fragiles et les plus confiants, oui, les plus espoirs dans la confiance donnée à l'enfant.
Marie-Agnès, peut-être que pour donner à entendre une poésie complète, vous pourriez peut-être en choisir une.
Oui.
En lecture, voilà, maintenant.
Oui, je vais en choisir. Oui. Peut-être qu'on peut mettre un petit morceau musical.
Le temps de chercher.
Voilà.
Entendu. Alors, Stéphane, on va mettre un extrait de l'artiste, harpiste que nous avons entendu tout à l'heure.
Elisa Velia.
Μια σμυρνιά στο παραθύρι με το παράπονο στα χείλη. Πότιζε βασιλικό καλέ, μαύρα είναι τα μάτια που αγαπώ. Πότιζε βασιλικό καλέ, μαύρα είναι τα μάτια που αγαπώ. Και της γη, και της γύρεψα ένα βράδυ να μου πλέξει ένα στεφάνι, να το ρίχνα στη θάλασσα καλέ, μικρή σου που σ' αγάπησα. Να το ρίχνα στη θάλασσα καλή, μικρή σου που σ' αγάπη.
sur Jardin d'Isis, nous sommes en compagnie de Marie-Agnès Salezada qui aujourd'hui a pris la place de l'interviewée à l'occasion de la publication de ses poèmes « La mémoire du pré ». Alors nous avons beaucoup parlé, Marie-Agnès, sur votre écriture, les thématiques qui sont développées dans vos poèmes et nous nous proposons pour terminer cette émission de vous entendre lire sûrement deux poèmes de votre choix.
Alors je vais lire « Les failles de la vie » parce qu'il résume bien le propos que nous avons eu. Le long de cette route qui me ramène vers la ville, je traverse les strates du calcaire sinueux, synclinaux, anticlinaux. Le coup d'épée du torrent qui fendit de parallèle la découpe de la falaise, le tracé millénaire. Je déambule dans les failles de la vie. La nature feuillette ses décors fabuleux. J'entr'ouvre des pages d'une noirceur à frémir. Vite, entraver la géhenne, derrière l'altière beauté de l'orchidée, l'urticant de l'ortie, sous la chevelure ondoyante de la forêt, refermer les pages du livre des douleurs. Sommes-nous encore acteurs? Oui, en dépit de notre indifférence.
Nous sommes sur Jardin d'Isis. Nous allons conclure cette émission avec Marie-Agnès Salezada, que je remercie encore de s'être prêtée au jeu de l'interview. Nous allons terminer en vous disant au revoir sur un dernier poème lu par Marie-Agnès, qui choisit donc...
Alors, je vais essayer de trouver « Tristesse de l'étoile ».«
Tristesse de l'étoile ».
Voilà, ça y est, c'est fait.
Et ce sera sur cette « Tristesse de l'étoile » que nous allons vous dire au revoir.
On a beau tenter de conserver ses rêves, on est rattrapé par les tentacules de la réalité. Les démons ont la vie dure, la gorgone étouffe ses proies, le minotaure savoure ses victimes, l'ogre se gave d'innocence, les sorciers mijotent quelques revanches. C'est l'advenu des mystificateurs, naître en 2015, alors qu'un massacre se fomente. Tristesse de l'étoile, implorer sa bienveillance, humain à bout de souffle, acculé dans ses retranchements, misère du savoir.
Στο φεγγάρι πως ακαλεί σπερίσματα σου στέλνω κάθε βράδια σου στέλνω κάθε βράδι. Αλλά τσά διανέ μου αγέρα μου φύσας νυχτά.
Je voulais remercier Stéphane Marin qui est à la technique pour enregistrer mes émissions et également Guylaine Dubois qui a porté un regard sur mes poèmes et dans ces questions m'a incité à une réflexion autour de mon écriture également. Merci Guylaine.
Σπρώσε πλάτια κι μίσου, σπρώσε πλάτια κι μίσου. Και στο όνειρο σου να με είδεις σκλαβός.